On va ensemble un peu des alachot sur Bishul Shabbat, d'accord? On va voir aujourd'hui le principe de la plaque électrique. Oh!
Oh! Alors,
oh! La plata, madame. En bon français, la plaque électrique. Hein? J'adore. Quand je dis le mot en hébreu, on me le demande en français. Quand je le dis en français, on me le demande en hébreu. Alors. Alors, non, on parle de la plaque électrique de Shabbat, la plata, d'accord? La plata chashmalit, d'accord? Alors, on voit qu'on nous rapporte dans le Talmud qu'un feu qui est recouvert durant Shabbat, d'accord? On n'a pas de crainte de venir remuer les charbons, parce qu'à l'époque c'était des charbons ardents, durant Shabbat, pour attiser la flamme. Donc on pouvait poser un plat à même un tel feu. De cette façon-là, on estime qu'une plaque électrique, ou même les têtes de gaz, si on pose une plaque de métal sur les têtes de gaz qui restent allumées durant Shabbat, on estime que ça ressemble à cela. Pourquoi ? Parce que, un, la résistance qu'il y a dans la plaque électrique, elle est recouverte, on n'y a pas accès, et il n'y a pas de bouton de puissance en général sur les plaques électriques. D'accord ? Donc on ne peut pas changer. Donc de ce fait, ça ressemble à ce feu-là. En plus, c'est recouvert, il y a une plaque en métal par-dessus la résistance électrique pour la plaque électrique, ou par-dessus les têtes de gaz, quand on va poser la plaque en métal par-dessus le gaz. De ce fait, on pourra poser des plats durant Shabbat sur cette plaque-là, mais à certaines conditions. Premièrement, il faudra que le plat soit suffisamment cuit. D'accord ? Pour pouvoir être consommé. Avant l'entrée de Shabbat. On ne pourra pas mettre un plat cru sur la plaque qui va cuire durant Shabbat, à moins... parce qu'il y a un mois, qu'on prenne ce plat-là et qu'on le pose sur un autre ustensile.
Bain-marie.
D'accord ? Non, pas bain-marie. Sur un autre ustensile qui va faire un effet de cloche, posé sur la plaque électrique ou la plaque en métal sur les têtes de gaz, d'accord ? Pour atténuer la chaleur. Et on pose là-bas, d'accord ? Et ce plat-là, au fur et à mesure, même s'il n'est pas totalement cuit pour être consommable, et on en a besoin pour Shabbat, il va continuer à cuire au fur et à mesure. On considère que ce ne sera pas interdit parce qu'on n'a pas l'habitude de cuire comme ça. On ne va pas laisser un plat pendant 24 heures pour cuire. De ce fait, il y a, on voit que, mis à part ça, il y a ce qu'on appelle bichoul lachar bichoul, une cuisson après une autre. Pour nos frères ashkénazes, on estime que dans quelque chose de lach, c'est-à-dire quelque chose de liquide, d'accord, en sauce généreuse, on voit quoi ? On voit que pour une chose comme celle-là, il n'y aura pas de cuisson après une cuisson. Ce qui veut dire que pour nos frères ashkénazes, de l'eau qui a bouilli avant Shabbat, d'accord, pourra être prise durant Shabbat et être remise sur la plata. Durant Shabbat.
Même pour que ça a bouilli ?
Même si elle a refroidi. Pour les Ashkénazes, je parle pour les Ashkénazes. Je passe pour les Ashkénazes. De ce fait, quand il manque dans certaines casseroles un peu d'eau, on voit que certains poskim parlent de prendre de l'eau et rajouter dans la casserole. On parle de poskim en général qui sont Ashkénazim, qui parlent d'eau qui a été bouillie avant Shabbat, au minimum. D'accord ? Qu'au moment de l'entrée de Shabbat, l'eau, elle a déjà bouilli. D'accord ? Et après, elle a refroidi, on pourra reprendre cette eau-là pour l'utiliser pour les plats qui sont sur la plata parce qu'elle a déjà cuit. Avant Shabbat, ils estiment qu'il n'y a pas de bichoul après. Nous, les séfarades, on estime qu'il y a du bichoul dans le liquide, d'accord ? Même s'il a été cuit avant. Si, à partir du moment où il a refroidi, on considère que ça s'appelle cuire. D'accord ? Donc il y a recuisson chez nous. Ok ? Par contre, dans le sec, il n'y a pas recuisson pour tout le monde.
Dans le quoi ?
Sec. Un plat sec. Donc un plat où la majeure partie, selon Rav Ovadia Yosef, où la majeure partie du plat est sec. Ce qui veut dire, si on a un plat, comme pour exemple un poulet aux olives, où il y a un peu de sauce tomate avec un peu d'olive, d'accord ? Et le rov, la majeure partie du plat, c'est le poulet sec, on pourra prendre cette casserole et la mettre sur la plata durant Shabbat. Selon le Rav Ovadia Yosef, s'il n'y a aucune sauce, ça pourrait être posé à même la plata. On n'a pas coutume de suivre le Rav Ovadia Yosef, même dans les communautés d'Afrique du Nord. Et quand même, on prenait un autre ustensile pour faire l'effet de cloche. D'accord ? De crainte que ce plat sec ne soit pas suffisamment cuit. D'accord ? et on le remettra sur une autre casserole pour éviter le problème. D'accord ? Tout problème, hein ? Le Rav Ovadia Yosef dit, s'il est cuit, il est cuit, vous pouvez poser à même la plata. C'est ce que dit le Rav Ovadia Yosef. On n'a pas pour coutume de suivre le Rav Ovadia Yosef concernant cette action. Il faut savoir que si on a une coutume que nos rabbanim nous ont imposée dans nos communautés auparavant, et qu'on habite encore en France, on n'a pas à suivre le minhag des séfarades d'Israël et les halakhot du Rav Ovadia Yosef sur certains points. C'est important de le dire.
Comment ça se fait que ce soit si important un minhag, alors que si dans certaines communautés, bon, si les Ashkenazes ils peuvent le faire, c'est que c'est pas interdit.
Ah, c'est pas, non. Personne n'a dit que c'était interdit. Personne n'a dit. Ça va plus loin que ça. En cas de besoin pour le Honek Shabbat, ça va plus loin que ça. Si moi j'ai un problème avec ma plata et que j'ai besoin de rajouter de l'eau et que j'ai pas d'eau chaude et qu'il y a un hérouv dans la ville où il y a un hérouv Hatzerot entre mon appartement et l'appartement de mon voisin Ashkenaz, je suis en droit d'aller voir mon voisin Ashkenaz, lui dire j'ai un problème avec ma plata, j'ai besoin d'eau, il est en droit de prendre de l'eau pour lui qui a bouilli à l'entrée de Shabbat et qui a refroidi et de la mettre dans ma casserole à moi. C'est pas sourd pour moi. C'est son minhag, c'est mon minhag. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Je vous énerve un peu. Je vous explique un autre truc qui vous énerve encore plus. C'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pour vous monter les nerfs. Donc voilà, Baruch Hashem. Maintenant, par rapport à ça, on va vous répondre. On va vous répondre tout simplement. Il faut savoir une chose, c'est qu'un minhag des Rabbanan, il a force de loi. D'accord ? D'accord ? Une coutume imposée par nos rabbanim à la force de loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des craintes. Il y a des débats. Il faut savoir que toutes les décisions halakhiques qui ont été prises se reposent sur des débats concernant la loi juive dans le Talmud. Des débats qui existaient et qui se sont créés à travers l'enseignement de Moshe Rabbeinu. Où Moshe Rabbeinu a enseigné comme ça on doit faire, comme ça c'est mieux, comme ça on peut faire minimum du minimum. Et après il y a des débats qui sont installés autour du minimum, la stricte loi, et comment faire au mieux la loi, les hidourim. Et il y a certaines communautés qui ont pris sur eux certains hidours ou certaines coutumes ou certaines chumrot, d'accord, et les ont instaurés en tant que minhag, et d'autres communautés qui ne l'ont pas fait, tout simplement par rapport à leur lieu géographique, mais toujours en se reposant, et par rapport à la réalité à laquelle ils étaient confrontés dans leur pays, mais toujours en se reposant sur un avis dans les mois, ce qu'on appelle les avis rabbiniques. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand nous, on a nos maîtres qui ont pris des décisions pour nous, d'accord, et qui savent de quoi ils parlent, et qui ont sur quoi se reposer, d'accord, ils connaissent les dangers dans la chose. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils créent des réseaux, d'accord, des tuyaux, si vous préférez, des flux entre la terre et le ciel, et que chacun doit se rattacher, je l'ai déjà expliqué la dernière fois quand je suis venu ici, à son propre flux, sa propre coutume. Maintenant, il faut savoir que dans certains cas, oui, mais je sais, c'est difficile, c'est comme ça, madame. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on voit?
Tu peux être séfarade. Tu peux être ashkenaz.
Mais il y a d'autres choses, madame, il y a d'autres choses que les séfarades font que les ashkenazes ne font pas.
Non,
pas du tout. Alors là, on va vous répondre. Ça y est, vous allez chercher la réponse, vous allez la trouver. Quand Akadosh Baruch Hu a sorti les Bnei Israël d'Égypte, il a donné un minhag différent à chaque tribu. Il y avait 12 minhagim et un 13e minhag pour le Beth Amikdash. C'est une volonté divine. Pour quelle raison c'est une volonté divine? Pour toujours fermer son clapet au Yetzer Hara. Et pour que chaque partie, chaque tribu, à travers les chumrot et les koulot qu'elle applique, d'accord, arrive à faire que dans le monde une énergie divine se répande. Donc, quand l'Ashkenaz il va être mekel sur bishul lachar bishul bedavar lach, d'accord, il va créer une lumière dans ce monde. Et quand nous on est mahmir, on va créer une autre lumière. Et ces deux lumières-là, elles vont se compléter. Mais c'est ça que... On dit à Rosh Hashanah, je vous donnais l'exemple concret, Rosh Hashanah, à chaque fois je le donne, et je le redonne, et je le redonne. C'est bien, on ne veut pas. Mais je le donne tout le temps. Mais c'est pour ça que vous n'écoutez pas mes cours sur Internet, vous. C'est bien. Alors maintenant... Bon, Baruch Hashem. Alors, c'est très bien. Prenez pas l'ordinateur pour ça. Après la pub. Alors, attendez. Après la pub. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qu'on voit ? on voit en réalité une chose qui est essentielle. À Rosh Hashanah, par exemple, un coup on sonne le chauffard debout, un coup on sonne le chauffard assis. Oh, assis, debout. On dit pourquoi assis, debout? On dit pour embrouiller le Satan. En réalité, on voit que quand un, il va mettre une tzitzit très longue sous sa veste, l'autre, il va rentrer dans le pantalon, l'autre, il va aller sortir dehors, d'accord? Et différentes tailles, et différentes couleurs, et différents modèles, et différentes... On est en train d'appliquer la mitzvah sous tous ses angles possibles et imaginables. Et on se complète, et on est en train de créer un maximum de flux de lumière. Et le Satan, il ne sait plus comment faire. Il a trop de lumière dans la tronche. Et c'est pour ça qu'il y a certaines coulottes et certaines chumrotes. Quand on vient, il y a une Gemara qui nous dit qu'on ne doit, on n'a pas le droit d'annuler une coutume rabbinique au sein du clan Israël et que toutes les coutumes doivent être conservées. Pourquoi? S'il y a une coutume qui a été décidée par des rabbins, à un moment donné, c'est vrai que les coutumes sont appelées à évoluer et à changer, mais on ne peut pas trop les changer. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a des lumières qui se créent. Comprenez? Donc il y a toujours besoin de complémentarité entre les différents mouvances par rapport à leurs origines des juifs. Ça a toujours existé. C'est Dieu, c'est comme ça qu'il nous a donné la Torah. Oh! Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas se poser de questions. Pourquoi lui, pas moi? Maintenant, c'est vrai que Baruch HaShem, les ministres, ils sont appelés Béni Israël. Béni, ça veut dire enfant. Les enfants d'Israël. D'accord? C'est vrai que parfois, on se comporte comme des enfants. On dit, pourquoi lui, pas moi? Pourquoi lui, il a le droit, moi, j'ai pas le droit? Parce que c'est comme ça. Parce que c'est mieux. Donc voilà, tout simplement.
Et le bain-marie pour la plata sadadu,
pas? Alors, on y va. On y va. Donc, par rapport à ça, on voit quoi? On a expliqué différents points pour la plata. Ce qui va expliquer que certains vont poser les chalotes, à même la plata, sans aucun problème.
Ça, on a le droit ou pas?
Oui, on a le droit. Selon le sens strict de la loi, on a le droit. Selon le sens strict de la loi, on a le droit. Et d'autres vont avoir pour coutume de poser les chalotes sur un autre keli. C'est ce que je fais moi. Je pose toujours sur un autre keli. Je ne m'amuse pas à poser à même la plata. Maintenant, on a sur quoi se reposer. Si je vais manger chez quelqu'un qui met les chalotes à même la plata, je ne suis pas en droit de dire « je ne mange pas chez toi ».
Ah, d'accord.
Oh! Donc, d'accord.
Excusez-moi, parce que ça, très souvent, il y a la difficulté, c'est de savoir la différence entre superstition et coutume.
Oui. Ben, pour connaître la différence, il faut prendre des livres de loi juive et les étudier. C'est aussi simple que ça.
Mais là, par exemple,
vous avez Shmirat Shabbat, d'accord. C'est en deux volumes sur Shabbat. Il y a les fondements du Shabbat d'un de mes amis, le Rav Youssef Loria, qui est très bien, très court, très bien fait. D'accord. Que je vous conseille, et vous connaîtrez après la différence entre superstition et loi.
Par exemple,
le minimum, oui.
Par exemple, pour votre cas, vous avez parlé de... Vous mettez les halotes au-dessus. Pourquoi vous avez changé le minag de mettre les halotes?
J'ai pas changé le minag, c'est mon minag à l'origine. C'est comme ça qu'on faisait en Afrique du Nord, on posait pas même la plata.
On a zappé.
Non, mais c'est qu'on avait en plage. La viande plate, on a vu, non, on mangeait que la viande plate. On n'avait pas ce genre de... Non? Tu dis, on mangeait que plate. Non?
Non.
À Djerba, ils mangeaient que halak bet Yosef. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi glat. Hein. Glat, c'est un mot qui veut dire super kasher. D'accord, en yiddish. Mais en réalité, il y a Chalak Bet Yosef. À Djerba, ils mangeaient Chalak Bet Yosef. À Tunis, ils ne mangeaient pas Chalak Bet Yosef. Ça ne s'appelait pas Bet Din. Ce n'était pas Chalak Bet Yosef. D'accord? Ils suivaient la chita du Rama dans la cache-route. Alors, sur certains points, c'est plus marmire que Chalak Bet Yosef. Sur d'autres points, c'est moins marmire. En matière de cache-route, on ne peut pas trop. La cache-route d'Afrique du Nord, de Tunisie, par exemple, se rapproche énormément de la cache-route Ashkenaz. D'accord? Et ils avaient des chumrot en Tunisie. Que à Djerba, ils n'avaient pas. Ils avaient des chumrot à Djerba, qu'en Tunisie, ils n'avaient pas. Bref. Il y a des, par contre, un des pays où réellement ils mangeaient Chalak Bet Yosef, et c'est étonnant, l'Algérie. L'Algérie, pendant des années. Et on voit, c'est le pays où il y a eu le plus d'assimilation par la suite. D'accord? Donc, Baruch HaShem, on voit qu'au Maroc, par exemple, il y avait énormément de villes où ils mangeaient Chalak Bet Yosef, mais la majeure partie des villes, ils ne mangeaient pas Chalak Bet Yosef au Maroc. D'accord? Mais je vous explique. C'est ce que les gens disent. Il y a ce qui est en réalité. Il faut étudier dans les shoutim de nos rabbanim qui nous expliquent tout ça. D'accord? C'était un des débats, justement, entre le Rabbi Chaim Belaïch et le Rav Moshe Chalfon HaKohen. Que le Rav Moshe Chalfon HaKohen a décrété que la kashrout de Tunisie n'était pas kshéra. Il est sorti contre le grand rabbin de Tunisie. Oh, c'était mon arrière-grand-oncle. Rabbi Moshe Chalfon HaKohen, c'est l'arrière-grand-oncle de ma femme. Quand on s'est mariés tous les deux, les rabbinim dirent bien, on dit Baruch Hashem, ils ont fait la paix dans le ciel. Donc c'était une machloquette qu'il y avait entre eux, c'est une machloquette connue. D'accord ? Baruch Hashem. Donc c'est juste pour vous expliquer. Après, par la suite, en Tunisie, comme dans toute l'Afrique du Nord, c'est vrai qu'ils ont commencé à être beaucoup de moins en moins regardants et qu'il y a eu énormément de problèmes de cache-route, mais c'est à partir du moment où les gens se sont beaucoup, beaucoup assimilés. D'accord ? Donc ça commençait à devenir un gros problème. À Tunis, à la fin, Baruch Hashem, il y a eu Rav Pinson. Ouais. C'était le seul. Il a sauvé. Il n'y avait plus d'école juive. Il n'y avait que lui. Ouais. S'il n'avait pas été là, ils auraient fait quoi ? Baruch Hashem.
Il est mort il n'y a pas longtemps, mais 50 ans, il est resté là-bas. J'ai passé un Shabbat avec sa femme.
Et donc, pour le Bamari, là ?
Hein ? Mais elle n'a pas oublié le Bamari, la dame. Alors, pour le Bamari, on ne le met pas à même la plata. Le Bamari. D'accord ? On ne va pas mettre une casserole d'eau chaude sur la plata et on met. Même si l'eau chaude était depuis la veille, on ne va pas mettre le bagbouk, le biberon, sur la plata. D'accord ? À moins que ce soit une casserole qui soit sur une autre casserole. Si c'est une casserole sur une autre casserole et que je pose le biberon dessus, même un séfarade, il peut. Mais ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est de prendre l'eau de la bouilloire qui est sur la plata ou de la bouilloire de Shabbat, le koumkoum de Shabbat, de mettre dans un ustensile, d'accord ? Et de mettre le bagbouk dedans. Et ça, on peut. Il n'y a aucun problème.
Hors plata.
Hein ?
Hors plata.
Pardon ?
C'est
Kelly Chenny,
c'est pas
Kelly. Alors, oui. Kelly Richon, c'est là où l'eau a chauffé. D'accord ? Kelly Chenny, c'est là où on met l'eau. Et le bagou, qu'il est dans un autre Kelly. Bon, on le met dans Kelly Chenny. Non, mais c'est pas Kelly Chenny.
Je suis peut-être idiote, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas. J'ai la plata.
Oui.
Je mets avant Shabbat.
Non. Sur la plata, non.
Après, on remet un.
Parce que le bagbouk, vous avez posé sur la plata.
Non, pas du bagbouk, je te parle que je mets une casserole d'eau chaude sur la plaque et qu'après, je veux mettre un riz dessus pour vous faire avoir de la vapeur d'eau le samedi matin. Ou un poulet rôti, je le mets au-dessus de la.
Ah, posé au-dessus, il n'y a aucun problème, posé au-dessus. Mais c'est pas le bain-marie. Le bain-marie, c'est dans l'eau.
Non,
je ne parle pas de bain-marie, je parle de vapeur.
Moi, c'est la vapeur d'eau
chaude. Ouais, ça, il n'y a pas de problème.
On met l'eau. On met l'eau. Et par-dessus, on met un plat.
Et mettre l'eau.
Oui, mais ça, c'est pas le bain-marie. Le bain-marie, on trempe dans l'eau.
On parle de deux étages.
Voilà.
Il y a quelque chose qui m'embête, c'est que quand je mets mon plat sur cette casserole d'eau là. Oui, après je mets un couvercle et souvent, quand j'enlève le couvercle, il y a de l'eau qui tombe sur la plata.
Ouh, ça j'adore. Le rav David Yosef, on en parlait dans la Chaboura justement. Attendez, on en parle. Le Rav David Yosef, il en parle dans la Chaboura, et son frère le Rav Yitzhak Yosef en a parlé dans l'Yakout Yosef, au nom du Rav Yosef, qui rapporte que ça c'est un véritable problème. Quand il y a la condensation d'eau sur votre couvercle et que vous enlevez, ça refroidit très vite. Si cette eau-là, elle tombe à même la plata, il y a un problème.
Attends, la plata ou le plat ?
Sur la plata elle-même, c'est un problème, mais c'est un problème, mais c'est un gros problème si ça tombe dans le plat. D'accord ? Donc en général, quand on enlève, au moment où on enlève, il y a quelques gouttes qui tombent. Ce n'est pas le problème, les gouttes qui tombent au moment où on lève. Si au moment où on va remettre le couvercle, il faut bien essuyer le couvercle.
Ah, d'accord. Et les trucs qui tombent dedans, non ?
C'est-à-dire ?
Une petite goutte, je ne sais pas, des fois je truc, il y a une petite.
Faut pas prendre la casserole et faire ça, au-dessus de la casserole. Faut prendre et enlever, c'est pas grave.
Comme ça, très vite.
Voilà, avec un chiffon.
Avec un chiffon.
Voilà.
Et après, bien nettoyer le truc.
Voilà.
Avant de remettre.
Bien sécher avant de le remettre.
Quel boulot le Shabbat.
Moi, des fois, je dis, sinon, je dors. Moi, je vais le remettre sur la
plata. Selon le Rav Ovadia Yosef, si la majeure. Hein ? Oui, on peut.
On peut.
On peut. On peut. C'est pire que ça, parce qu'on rapporte là-bas. Là-bas, il y a le Rav Tzrak Yosef, il rapporte un chidouche. Il dit, comme maintenant c'est devenu carouche, c'est devenu dur, ça s'appelle du solide.
Parce qu'après, ça va redevenir.
Oui, ça s'appelle du solide au moment où je le mets sur.
Donc, le plat qu'on met en tête, d'accord, c'est pas un plat à tarte en tête.
Mais on met sur une autre plat, hein.
C'est un plat à tarte en tête, qu'on met en.
De quoi? Ça doit être un plat qui doit être suffisamment haut. Pour atténuer la température. Tout dépend de la plaque électrique que vous avez. En général, les plaques électriques sont assez costaud,
ah ouais.
Donc il faut une casserole à peu près comme ça de hauteur.
Ah, tout ça ?
Ah bon ?
Ouais.
Wow. À l'envers alors ?
À l'envers, bien sûr, à l'envers.
Tout ça comme une casserole ?
Ouais. Mais là, c'est pour faire les filles.
Ah, non, c'est pour faire
les filles. Alors, quand je fais une bêtise, moi, je suis planquée. Non,
bon, après
dans la DAF, j'ai mes sachets.
Il y en a qui ont des repose-plats simplement avec des filtres, ça ne suffit pas. Il faut vraiment un plat haut pour atténuer la température.
Je le mets à l'envers.
Tout dépend de ce que vous mettez. Pour des chalotes, ça suffit.
Pour le,
votre histoire en sauce, non?
Ah, d'accord.
Ok? Voilà. S'il y a un tout petit peu de sauce et de la viande solide, ce sera mieux de mettre une casserole haute. D'accord? Entre la plata et le plat.
Je fais mon poulet au four rôti.
Ouais.
Un petit peu de sauce et deux gros poulets. Ouais. Je peux le mettre sur la plaque et le samedi matin.
Ouais, sur un autre plat.
Ou sur la grille, si j'ai une grille qui est dessus la plata.
Il vaut mieux un autre plat.
Quoi,
la grille, des fois, c'est pas assez épais.
C'est pour un autre plat vide que je mets comme ça.
Ouais.
Ou alors l'eau chaude d'avant.
Il y a par exemple, vous avez des plats en pyrex qui font à peu près 5-8 cm. Ça suffit, ça.
Là-dessus à sec,
et c'est pas voilà. Si vous m'avez dit, vous avez dit.
Parce que c'est un plat en verre épais, la chaleur, elle avait du temps avant de passer.
Ça, alors.
Oui, madame.
D'accord.
Je sais de quoi je vous parle.
Ça, c'est si c'est en verre épais, je vais mettre moins haut. Mais si c'est
en métal, le métal est conducteur de chaleur de façon beaucoup plus importante que le verre. Donc, il faut des casseroles plus hautes. Hein? Non, le pyrex, c'est fait pour résister à la chaleur. Oui, madame. Oui, je connais. Oui.
Voilà. Donc, de temps en temps, il manque de l'eau. Comment je fais pour mettre de l'eau dans ce
plat? Oh là là. Alors, il y a différentes méthodes. La méthode idéale, c'est mettre un plastique avec de l'eau, d'accord, qu'on va trouer avec un couteau s'il vient à manquer de l'eau. D'accord? Ça, c'est la meilleure méthode. C'est la meilleure méthode, vous sortez de tout problème. Prenez un sac plastique, il faut prendre du plastique alimentaire qui résiste à la cuisson. Hein. Sinon, c'est cancérigène, Chas v'Shalom. Donc, il faut prendre ce type de sac-là que vous mettez dans votre plat. D'accord? Et si besoin est, vous les trouvez pour ajouter de l'eau.
Et qu'à couteau. Non.
Il faut le poser au moment de. Voilà. Dans le plat. Sinon, il faut de l'eau chaude qui soit à la même température que la casserole. Le problème qu'il y a, c'est que très souvent, les koum-koum que vous avez en dehors de la plata, bah, ils sont pas vraiment. Il y a certains koum-koum, les nouvelles générations en plastique, excusez-moi, les nouvelles générations de koum-koum en plastique ne chauffent pas autant que les anciens koum-koum en métal. Et l'eau, elle n'est pas forcément à la même température que la casserole. Quand vous allez prendre l'eau, la mettre dans le verre et la ramener dans la casserole, ça ne va pas être forcément à la même température. Donc l'idéal, pour ceux qui veulent faire ça, c'est de mettre une casserole d'eau chaude sur la plata. D'accord? On est sûr que l'eau chaude sera à la même température que la casserole avec le plat. Et de prendre avec une louche directement l'eau et de mettre dans la casserole. Mais pour sortir... Hein? Donc, dans votre histoire de casserole électrique, c'est pour ça que je vous ai répondu, le sac plastique. Et même pour ceux qui mettent leur plat sur la plata, la meilleure méthode, c'est de mettre un sac plastique dans le plat déjà veille de Shabbat avec le plat, comment il est posé sur la plata, et que si ça manque un peu d'eau, on troue le sac avec un couteau.
Pour le thé.
Oui.
Je fais avec, je remplis un verre et je le mets dans le verre.
Ok.
Et j'ai mon sachet de thé.
Ok.
Maintenant le sachet de thé, il a cuit. Enfin, il a cuit. Il a.
Alors regardez, en bishula harafia, la majeure partie des thés sont fumés au four. Donc du fait d'être fumé au four, d'être séché au four, on considère qu'ils ont été cuits. Donc en bishul la harafia. Rien ne cuit après avoir été cuit au four. C'est le cas des chalot.
D'accord, mais c'est quand même...
Hein?
Je vais pas mettre...
Non. Vous prenez de puis le koum-koum dans un premier verre et vous mettez dans le deuxième verre. C'est dans kilish lichi. Et c'est dans le troisième verre qu'il y a déjà le sachet de thé. Il y a le sachet de thé, que vous mettez le sachet de thé avec l'eau.
En même temps,
d'accord ?
Non, avec le même sachet, parce que c'est un sachet un peu fort, je veux faire un deuxième thé. Est-ce que je peux prendre
non.
Le thé ?
Bon, d'accord. C'est Srita. Srita.
Mais alors, une fois qu'on a mis le sachet, on met d'abord...
Ok, alors je vais vous expliquer un klal. Il y a un klal, et c'est le dernier klal. D'accord ? Bezrat Hashem. On voit comme ça, hein. On voit que... le dernier clal qui est important, c'est qu'on estime que dans toutes ces méthodes de kelim qu'on va prendre d'un kili rishon dans un kili shini, etc., on estime que même si l'eau est chaude, c'est le koah habishul, la force de cuisson qui va être diminuée. Maintenant, il faut être sûr que la force de cuisson est diminuée, même si l'eau elle se maintient plus ou moins à la même température. Donc pour ça, il faut être sûr que l'eau soit toujours... On sent la force de cuisson qui est moins importante. Il y a moins de fumée, il y a moins de buée, et quand on va poser nos doigts dessus, on ressent la chaleur, mais c'est moins violent. Ça prend un peu plus de temps. Ça reste à la même température. Si vous prenez avec un thermomètre, ça va être à la même température. D'accord ? Donc la température, c'est pas forcément le bon indicatif. C'est la force de cuisson qui nous intéresse. Le problème qu'il y a, c'est que si on met même dans un kili révi ou khamishi de l'eau chaude, et que quand on va toucher le verre, on voit que la buée, c'est la même, la fumée, c'est la même, et quand je vais toucher le verre tout de suite, je vais le lâcher, d'accord ? Ça reste toujours un problème. Ça, c'est premièrement. D'accord ? Deuxièmement, dans le cas du thé dont vous avez parlé, il y a un problème que beaucoup de gens ne connaissent pas. Premièrement, dans le thé, il y a une marque locale dans les poskim. Si Bichlal, on peut préparer le thé durant Shabbat ou pas. Beaucoup conseillent de préparer de l'essence de thé concentrée qu'on va mettre sur la plata durant tout Shabbat pour mélanger au fur et à mesure cette essence de thé qui est sur la plata avec de l'eau chaude.
Et si elle reste froide, par exemple, moi je mets des feuilles de menthe, un gros paquet avant Shabbat brûlant. Ah ouais. Je laisse comme ça, c'est une essence de thé et je me sers de ça.
Ah ouais, tu fais ça et c'est bien.
C'est bon. D'abord, on voit si c'est vraiment. Alors, regardez, laissez-moi terminer d'expliquer ce que j'explique, après, on passe à un autre cas. C'est pas le même cas. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça ? On voit quoi ? On voit que, donc, il y a un problème. Donc, il y a ceux qui conseillent l'essence de thé. Maintenant, selon le sens strict de la loi, c'est pas un problème le sachet de thé, vu que le thé en général est fumé au four. Donc, en bichoul la kharafia. Donc, ceux qui utilisent le sachet de thé ont sur quoi se reposer. Le problème qu'il y a, c'est quand on retire le sachet de thé.
Il ne faut pas le retirer.
Quand je retire le sachet de thé, il va couler avec l'eau. Et c'est la façon qu'on a d'essorer les choses. Et ça, c'est assourd. D'accord ? Donc, si je vais enlever le sachet de thé pour le mettre dans un autre verre, je prends avec une casserole pour l'enlever. Le problème qu'il y a, c'est que l'eau qu'il y a dans le sachet de thé a refroidi très vite. Et que nous, on est séfarades. Et qu'on n'a pas le droit de recuire de l'eau après une cuisson. Et même si je le mets dans Kelly Shlishi, s'il y a une force de cuisson, quelle qu'elle soit, et que la température n'a pas diminué, même si la force de cuisson a diminué, je ne pourrais pas mettre de l'eau dans ce verre avec un autre thé. Donc je ne vais pas m'amuser à faire deux thés avec le même sachet.
Et si on met dans une théière ?
D'accord ? Alors l'idéal, c'est que vous prenez une théière et vous mettez votre sachet dans la théière.
Avec le troisième récipient.
Et le sachet, vous l'oubliez au fond de la théière.
Mais il faut le troisième récipient.
Hein ?
Faut faire le
concombre, tu la mets dans la théière.
Et après, tu le mets dans la théière. Voilà. Exactement. Alors, pour le cas du concentré préparé veille de Shabbat et qui se retrouve froid, il faut savoir, premièrement, que certains décisionnaires estiment que la menthe s'appelle kharif. Et que selon certains décisionnaires, quelque chose qui est kharif, qui est, on va dire, épicé. D'accord ? Quelque chose de très épicé. D'accord ? Comme on va dire l'ail, l'oignon, c'est kharif. Il y en a qui considèrent que la menthe, ça pourrait être kharif. D'accord ? Certains considèrent. Alakha les maasé, on ne considère pas que c'est kharif pour la majeure partie des décisionnaires, mais certains le pensent. Donc ils ne vont pas s'amuser à prendre des feuilles de menthe durant Shabbat et de les mettre, même si elles ont cuit dans l'eau chaude, de mettre encore de l'eau chaude après dessus. D'accord ?
En fait, Shabbat, je ne vois pas le
calame. Attendez, je termine. Je termine. C'est pour ça qu'il y en a qui conseillent l'essence de thé, qu'on met sur la plata. D'accord ? Mais après, le thé, il est costaud. Hein. Alors maintenant, juste, je termine. Non, mais c'est plus simple de boire du café que du thé, Shabbat. Maintenant, le dernier point qu'il y a, pour l'essence, maintenant, qui a été préparée, si on va selon le décisionnaire qui estime que la menthe n'est pas kharif, il y en a, c'est la majeure partie des décisionnaires, d'accord ? Et si on va selon le décisionnaire séfarade qui estime qu'il y a bichoul, l'achar, bichoul, bedavar, l'ach, alors la seule façon qu'on aura, c'est de prendre un maximum d'eau froide et de mettre une toute petite quantité d'eau chaude dedans. Donc un maximum de cette essence que vous avez préparée avec un tout petit peu d'eau chaude pour être sûr que ça ne cuit pas. D'accord ? Et comment on fait en réalité ? On doit mettre l'eau chaude d'abord dans le verre et après mettre une grande quantité en une seule fois d'eau froide. Pourquoi ça vous a dépassé ?
Non, c'est pas quelque chose.
Pour le sachet, barraquette.
Mais ce que je viens d'expliquer, c'est aussi pour les biberons pour bébé. Hein? Bon, Dieu bénisse, mais bon, pour les biberons de bébé. Exactement. Mais il faut une majeure partie d'eau froide, un peu d'eau chaude. Exactement. Oui.
Si par exemple je m'aperçois que mon plat commence à brûler puis je chabat et que ça commence à sentir le goût,
je soulève mon plat en ayant l'intention, sans le poser de préférence, je le poserai surtout pas sur quelque chose qui est rattaché au sol comme le plan de travail de la cuisine, d'accord. Si je viens le poser de préférence, je vais le poser sur un repose-plat en osier ou un chiffon de façon un peu tordue, en faisant attention que ça se renverse pas. Si j'ai que deux mains, il n'y a personne pour m'aider. Je mets mon diffuseur et je remets la casserole. Il faut qu'au moment où je prends la casserole, j'ai l'intention de la remettre. Ni on la pose à même le sol, ni on la pose à même le plan de travail, quelque chose attaché au sol. D'accord ? La vaisselle, si on a le droit de la faire ou pas ? Ok, c'est une marloquette dans la Gemara concernant le moxé. D'accord ? Il y a une marloquette dans la Gemara qui nous explique que chaque ustensile serait moxé tant qu'on ne l'utilise pas. Donc même un verre, il est moxé en dehors de son utilisation. Donc de ce fait, d'accord, par rapport à cette marloquette-là. Alors, hein?
La table même, il faut la recouvrir. Hein? La table même, la table où on mange.
Mais pas moxer la table.
Mais pourquoi on dit qu'il faut la recouvrir et qu'il faut mettre même un huile de Torah avant le...
C'est pour ceux qui étudient, qui mettent... Pour ça, c'est autre chose. C'est pour ceux qui mettent les nérotes de Shabbat sur la table. Non, c'est pour ceux qui mettent les nérotes de Shabbat sur la table. Au moment où les nérotes sont allumées, on n'a pas le droit de toucher la table. À moins d'apporter des chalotes ou un livre de prière ou des bokélim en argent sur la table. D'accord ? Donc voilà, je vous explique, la table elle n'est pas moxée, on recouvre les tables, d'accord ? Sans souvenir de la manne qui descendait du ciel, qui était posée, qui avait une couche de rosée et encore une autre couche de rosée par-dessus. Une couche de rosée qui descendait sur le sol, la manne descendait, une autre couche de rosée. Donc on met une nappe et on met une autre nappe par-dessus. Raison pour laquelle certains vont rajouter même un plateau pour les chalotes. D'accord ? Mettre le kissou des crèmes. Attendez, hein ?
Attends, j'ai interrompu, excusez-moi.
Donc, et on dit que toutes les tables, on doit les recouvrir à Shabbat. Parce qu'il y a une très grande kedusha qui rentre et que la kedusha se dépose sur le tissu. C'est pour laquelle on met du tissu sur notre tête, la kippa.
Parce que la vaisselle, vous étiez parti.
Alors, on est sur la vaisselle. La vaisselle. La vaisselle durant Shabbat. Donc, selon certains dictionnaires qui estiment que tous les kilims sont moxés en dehors de leur utilisation, et dès qu'ils ont été utilisés, et dès que j'ai suffisamment de kilims propres, il n'y a aucune raison de faire la vaisselle, ils interdiront de faire la vaisselle durant Shabbat. Maintenant, si on a besoin, même pour ces dictionnaires-là, si on n'a pas assez de vaisselle et qu'on a besoin de faire la vaisselle, on aura le droit de nettoyer uniquement ce dont on aura besoin. D'autres dictionnaires estiment que uniquement seront moxés les cinq catégories de moxés, donc Keli Shemilartoli Issour, Keli Shemilartoli Eter, d'accord, Moxé Mechamat Risronkis, Moxé Mechamat Misva, ok. Et il y a Moxé Mechamat Goufo. D'accord ? Bon, c'est cinq catégories de Moxé. Il y a l'ustensile qui sert à faire un travail interdit. L'ustensile qui sera interdit parce qu'il a une trop grande valeur financière pour être touché durant Shabbat, entre guillemets. Ouais, ça existe. Hein ? Alors, c'est quoi par exemple ? On va donner un exemple concret, une œuvre d'art. Une œuvre d'art, un joli tableau, d'accord ? Des lunettes cassées. Ouais. Des lunettes cassées. L'ustensile, le bistouri du Moël. En dehors de son utilisation, il est Moxé Mechamat Risronkis. D'accord ? Donc voilà. Donc ce type de choses-là qui ont une grande valeur. C'est surtout pour le propriétaire. D'accord ? Mais qui a une valeur aussi financière. Donc voilà. Bon bref, il y a différents types de moxé. Donc il estime qu'il y a des catégories de moxé. Ok ? Bref. Donc il y a des catégories de moxé et que tout n'est pas moxé. Eux, ils estiment que la vaisselle, même si on en a suffisamment, sur ceux qui veulent la faire, ils pourront faire leur vaisselle. Maintenant, la vaisselle sera faite durant Shabbat. De préférence, si on n'est pas en Israël et qu'on n'a pas le Doud Shemesh et qu'on ne peut pas fermer l'arrivée d'eau froide dans le Doud Shemesh, d'accord ? de préférence, on utilisera l'eau froide. Pourquoi ? Parce que dans les mélangeurs d'eau, quand vous allez utiliser l'eau chaude, il y a toujours de l'eau froide qui se mélange avec. Il y a un problème de bichoule. Hein ?
On doit vraiment arrêter parce que j'ai un rendez-vous à 13h.
J'ai compris. Juste,
ouais. Terminez ça.
Juste le dernier point sur la vaisselle. En réalité, Mikara dit on a le droit de faire la vaisselle durant Shabbat. D'accord. Ça pose pas de problème. D'accord ? Si la femme est embêtée, le mari n'est pas en droit d'interdire à sa femme de faire la vaisselle durant Shabbat. La vaisselle sera faite avec des roses en plastique.
Oui,
d'accord ?
Oui,
trouées, et pas les éponges qu'on utilise. Ni les lavettes, ni les éponges, ni les scotch-brite. Donc on pourra, d'accord ? Ou les brosses, on pourra utiliser ce type d'ustensile-là pour faire la vaisselle.
Moi, c'est un grand rideau.
D'accord ?
Je n'avais pas le droit. Non, le droit,
on a le droit.
Si je manquais de vaisselle, donc je me retrouve avec des...
Non, on a le droit. Si ça pose un problème de Shalom Bayit et qu'à la fin, Motsé Shabbat, la femme elle a trop de vaisselle pour faire, on l'autorisera de faire. On l'autorisera de faire et un mari ne se sera pas en droit d'interdire à sa femme. Si un mari veut interdire à sa femme de faire la vaisselle durant Shabbat, la femme est en droit de lui dire, fais la vaisselle Motsé Shabbat. Je suis très sérieux. Et on terminera sur une anecdote. Bon, vous terminez l'anecdote. Vous voulez l'anecdote ou on est terminé? Un jour, il y a un chassid qui est rentré chez le Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, et qui a dit, Vodarav, durant Shabbat, on ne peut pas plier un tissu dans ses plis. Donc quand on prend son talit, on le plie en dehors des plis où certains vont le laisser en boule. Il dit, il y a une ségoula pour le Shalom Bayit qui est tout de suite à la sortie de Shabbat plier son talit. Le Rabbi de Lubavitch lui a répondu, la plus grande ségoula pour ton Shalom Bayit, c'est d'aider ta femme à faire la vaisselle et nettoyer la maison le Shabbat. Pas plier le talit.
Voilà. Ça, c'était enregistré.
Ça, c'était enregistré.